Je voulais vous parler de la confiance qu'on doit faire à notre Dieu ce matin. Et pour cela, on lira tout à l'heure dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les versets 4 à 34. Je pense que vous faites tous confiance à Dieu, au moins pour votre salut et pour votre vie éternelle. Mais Dieu nous dit de lui faire confiance au-delà de cela pour notre vie ici. Alors avant de lire ce chapitre 12, avant le chapitre 12, il y a le chapitre 11. Et dans le chapitre 11, Jésus juge sévèrement les pharisiens. Il leur dit « Quel malheur pour vous, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. » Il dit « Vous purifiez le dehors, mais l'intérieur est plein de rapacité et de méchanceté. » Et le début de chapitre 12 commence avec l'avertissement de Jésus à ses disciples « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est hypocrisie. » Alors pour les ménagères, elles se connaissent bien ça, le levain dans la pâte, on ne le voit pas, mais il travaille doucement, et puis à la fin, ses effets finissent par se révéler. L'influence du monde agit certainement aussi comme cela pour les disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'abri de cette fausseté qui creuse un écart entre ce que nous sommes à l'extérieur et ce que nous sommes à l'intérieur. Et Dieu a en horreur un cœur double, un cœur partagé. Dans Osée, on lit « Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. » Et ce fut la faute de Salomon, dont il nous est dit « Son cœur ne fut pas tout entier pour l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. » Puis Jésus lui-même nous dit « Nul ne peut servir de maître. » Et nous savons bien que on ne peut pas cacher le secret de nos cœurs à notre Dieu. Alors la parole de ce matin, peut-être, va nous prescrire un remède à l'hypocrisie, faire confiance à Dieu dans notre vie. Les chapitres 11 et 12 de Luc forment un ensemble. Il s'agit de deux parties d'un enseignement destiné aux disciples, interrompu, en quelque sorte, par une parabole adressée à la foule sur le même thème. Et la parabole, c'est un appel à l'homme qui ne tient pas compte de Dieu dans sa vie, dans ses projets de vie. Et Jésus l'appelle un homme déraisonnable ou insensé. Et nous voyons bien que la même tentation de vivre sa vie comme si Dieu ne s'en préoccupait pas guette aussi les disciples. Me guette, nous guette. Au risque d'être des disciples extérieurement, mais d'être déraisonnables à l'intérieur. Donc nous avons, je pense, à écouter ce passage de Luc très régulièrement pour notre bonne santé dans notre vie chrétienne. Et la conclusion de ce passage, l'indice d'une foi saine, indivisée, cohérente, est que notre trésor, ce qui nous est vraiment précieux, qui nous motive, ce qui nous préoccupe, que ce soit le royaume de Christ. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et je crois que le danger le plus nocif pour notre foi, c'est la préoccupation des conditions matérielles de la vie d'une façon ou d'une autre. Alors lisons le texte de Luc. Luc 12 à partir du chapitre 4, du verset 4. Et il nous parle. « Je vous dis à vous qui êtes mes amis. » On nous a rappelé ce matin que Christ nous appelle ses amis. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, aucun d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé ? Pour qui cela sera ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez ? Ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Non, c'est pas ça. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Alors ce message, bien qu'il s'adresse aux disciples, on voit que la parabole s'adresse à tous, à tous les hommes. Jésus s'adresse à la foule. Et c'est une sorte d'appel à la sagesse qui précède l'annonce de l'Évangile. Jésus dit de façon très claire, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est ce que la parabole du paysan riche, là, nous démontre. Mais quelle est la faute de cet homme riche? C'est pas d'être riche, même pas d'être égoïste, bien que l'égoïsme soit certainement un symptôme de sa condition. Mais donner une partie de ses richesses aux pauvres ne résoudrait même pas son problème fondamental. Le problème de cet homme riche, c'est de penser que la vie, c'est faire des projets, c'est amasser des biens, puis prendre sa retraite, profiter de ses loisirs. Il ne se demande pas d'où viennent les récoltes qui l'enrichissent, et il ne calcule pas avec la mort qui est imprévisible. Il vit comme s'il était enfermé, sans jamais regarder par la fenêtre. Quand il réfléchit à l'avenir, vous remarquez, il ne parle qu'à lui-même. Mais soudain, de façon inattendue, Dieu fait une irruption dans sa vie. Il est là, il lui parle. Et il lui dit, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Et c'est là où se voit la stupidité de l'homme riche. Il n'est pas stupide en ce qui concerne ses projets, même s'il est égoïste, il est stupide parce qu'il vit en dehors de la réalité. Il n'a jamais pris la peine de regarder à l'horizon de la vie. Même si intellectuellement, comme chacun de nous, je pense, il savait que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, il a vécu comme si ce n'était pas vrai. Il a tout construit en pensant que la vie, la vraie vie, c'est la réussite. Il a peut-être imaginé un monde où Dieu est absent. Et il a mis toute son énergie, toutes ses ressources dans ses projets pour cette vie-là. Il a imaginé que c'était lui le maître de son destin. Mais brutalement, il arrive à la fin du rêve. Les rêves ont toujours une fin. Et il se trouve en face de la réalité. Il découvre, trop tard, que Dieu existe, lui parle, le juge. Il découvre, trop tard, que Dieu est la source et le maître de la vie. L'homme avait bien cultivé ses terres, il avait bien mis de l'engrais pour qu'elles rapportent beaucoup. Mais il n'a jamais cultivé sa relation avec son Dieu. Il a amassé un trésor pour lui-même, sans être riche pour Dieu. C'est pourquoi il est déraisonnable. Car devant Dieu, Dieu qui est la vie, cet homme, ça va se retrouver tout nu, démuni, sans un euro céleste, sur son compte. Parce qu'il n'a jamais investi dans cette monnaie-là. Et ce qui m'a troublé quelque part, c'est que je me suis dit que ce que dit l'homme riche, et qui est au centre de la parabole, ne m'a pas semblé ridicule. C'est plutôt le langage de notre époque. Prévoir, investir, profiter de la retraite. Et Dieu l'appelle l'homme déraisonnable. Mais ces projets nous sembleraient raisonnables, à condition bien sûr d'ajouter peut-être une ligne budgétaire supplémentaire, pour les autres une ligne humanitaire. Mais est-ce que c'est suffisant? Pour la publicité, et cela nous convient, la retraite est quasi éternelle. Et on ne fait jamais référence aux choses qui fâchent. Ne dit-on pas que la retraite est un beau métier, mais qu'hélas, elle finit mal? Et c'est vrai qu'avec la retraite, qu'après la retraite, pour ceux qui y parviennent en tout cas, vient la mort. Nous le savons, nous pensons peut-être à notre testament, mais est-ce que nous laissons la certitude de la mort nous poser des questions sur ce qu'est la vie? Parfois même, la mort, comme pour le riche insensé, appelle avant que l'homme ait pu réaliser ses beaux projets. Et cela ne nous semble pas juste. Quelqu'un qui a cotisé de façon prévoyante toute sa vie et qui est privé des fruits de son investissement. Cette parabole de Jésus s'oppose au message que notre monde moderne nous envoie de façon constante. Mais apparemment, le matérialisme, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau puisque Jésus en avertit la foule de son temps et ses disciples. Si la parabole appelle les hommes à reconnaître que Dieu existe et à en tenir compte, à reconnaître que la vie est bien plus que les biens qu'ils amassent, les deux autres parties du message de Luc parlent à ceux pour qui Dieu est Père, à ceux que Jésus appelle ses amis. Et le danger pour nous, donc, est aussi de vivre comme si dans cette vie, Dieu était absent et que nous en soyons maîtres. La première partie ne parle pas des soucis matériels, mais plus profondément de la peur pour notre vie. Et cependant, elle est reliée à la deuxième partie par les versets qui nous disent que les cheveux de notre tête sont comptés et que nous valons plus que les moineaux, dont Dieu pourtant n'oublie pas un seul. Les deux images sont au service de la même idée. Dieu nourrit les moineaux et nous valons plus que les moineaux. Dieu habille les lys et à combien plus forte raison le fera-t-il pour nous? Le message est assez clair. Ne craignez pas les hommes, même sous menace de mort, mais craignez Dieu, Dieu qui est le maître de la vie et le maître de la mort véritable, de la mort éternelle, le juge devant qui nous devrons rendre compte. Craignez, ce mot a le sens de plier devant, de se laisser diriger par. Et nous le ferons en fonction de ce qu'on met au premier plan de notre vie. L'homme qui nous fait peur ou le Dieu de l'éternité. Mais ne craignez pas aussi parce que Dieu n'est pas absent de ce monde. Dieu prend soin de nous, même dans les situations de grande épreuve. Il nous est dit que devant même la persécution, nous ne devons pas craindre la menace qui pourrait nous faire renier Dieu. Car non seulement Dieu est au-delà de la mort physique, mais il est aussi dans ce monde dont il est le créateur et dont il prend soin. Et il prend soin de nous, ses enfants. Alors plutôt que de craindre les hommes violents, faisons confiance à Dieu. Dans ce contexte, Luc ajoute quelques paroles concernant l'attitude envers le Fils et le Saint-Esprit. Nous trouvons ces paroles dans d'autres évangiles, dans des contextes différents, ce qui peut rendre un peu moins difficile dans l'interprétation. Donc ce matin, je dirai rien sur ce verset qui inquiète quelquefois concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Je dirai rien sauf pour noter que pour Luc, c'est une précision importante que d'associer au choix fondamental de craindre Dieu plutôt que les hommes une attitude équivalente envers le Fils et l'Esprit qui l'habite. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, il se trouvait des gens très zélés pour Dieu, prêts même à mourir en son honneur. Mais il faisait fausse route s'il ne reconnaissait pas en même temps que le Fils de l'homme, c'est aussi Dieu. Le Fils de l'homme, c'est celui à qui a été confié le royaume. Aujourd'hui, comme avant, Dieu ne nous demande pas de chercher le martyr. Il nous dit seulement de ne pas nous inquiéter si les autorités devaient nous juger, car l'Esprit Saint nous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Ne craignez donc pas pour votre vie, dit ce passage. Restez fidèles à Dieu, dont l'autorité est au-dessus de celle des hommes. Faites-lui confiance, parce qu'il prend soin de vous dans ce monde et vous donnera tout ce qui est nécessaire par l'Esprit Saint quand vous en aurez besoin. C'est pourquoi, dit Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtu, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. La recommandation de Jésus est claire, ne vous inquiétez pas pour votre vie matérielle. Ne cherchez pas ce que vous allez manger, ne vous tourmentez pas, n'ayez pas peur. C'est pour cela que je veux dire de ne pas s'occuper du tout des choses matérielles. Ce n'est pas non plus ce que nous enseigne la Bible. Si on veut prendre dans les Proverbes, Proverbe 10, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Et juste avant, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit amasser ou on ne doit pas s'occuper? Les Proverbes nous donnent aussi un autre exemple, c'est Proverbe 30. Il y a sur terre quatre animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Donc l'Écriture nous donne des exemples où il nous est dit qu'il faut quand même être prévoyant. C'est pas parce que Dieu s'occupe de nous qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut être prévoyant, mais il ne faut pas que cela absorbe complètement nos pensées. Pourquoi ne pas être absorbé complètement par ces choses matérielles qui sont pourtant indispensables? D'abord parce que, comme il nous est dit, c'est la vie qui est importante, la vie qui est plus importante que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est la leçon de la parabole. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, et cela, même si l'on n'est pas riche. Passer notre temps à nous inquiéter pour les choses matérielles de la vie risque de faire de nous des matérialistes, comme l'homme riche, sans richesse pour Dieu. Puis ne vous inquiétez pas parce que Dieu est le Créateur. Il est notre Père, il prend soin de nous et il sait ce dont nous avons besoin. Nous valons plus que les oiseaux et plus que les lys des champs, qui pourtant ne sont pas oubliés par Dieu. Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses matérielles, dit Jésus. Puis enfin, il ajoute une troisième raison, Jésus, pour ne pas s'inquiéter. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? C'est Dieu qui est le maître. Et notre inquiétude n'accomplit rien, si ce n'est pour nous paralyser pour la vraie vie, la vie du royaume de Christ. Alors ce sont des recommandations très simples pour nous qui vivons dans une société très compliquée. Cela suppose une dépendance directe de Dieu, notre Créateur et notre Père, face peut-être à des factures multiples qui arrivent dans nos boîtes aux lettres, des obligations financières, la pression de notre société d'être prévoyant, trouver plus de simplicité dans la vie, mais comment le faire? À chacun de nous d'entendre ces paroles dans sa propre situation, qu'il soit aisé, ou plutôt dans l'inquiétude de la fin du mois, car ce sont des vérités fondamentales. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est Dieu le maître de la vie, c'est lui qui prend soin de nous, son troupeau. Et à nous de lui faire confiance, non seulement pour la vie future, mais pour cette vie-là. Et c'est bien la foi que nous professons, non? Et puis il y a une recommandation positive, cherchez la vraie vie. Cherchez d'abord, ou plutôt, le règne ou le royaume de Dieu. Chercher Dieu, c'est ce qui importe pour lui dans notre vie. Luc associe cette parole à une autre, celle qui est la conclusion de cette parabole. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux. Et le texte de Luc ne nous permet pas d'interpréter cela comme d'une façon purement spirituelle. Être riche pour Dieu va toucher aussi notre porte-monnaie. Vendez vos biens et donnez-les aux pauvres. Être riche pour Dieu, c'est une question d'investissement dans les choses de Dieu, de ce qui va durer éternellement. C'est donner notre temps, notre énergie, notre préoccupation et notre argent au projet de Dieu. C'est-à-dire vivre et annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais pour ce faire et être ainsi riche pour Dieu, nous devons forcément cultiver un certain détachement par rapport aux richesses de ce monde. Donner aux autres, c'est peut-être un signe que nous faisons confiance à Dieu plutôt qu'à nos économies pour les aléas de la vie. Être riche pour Dieu, c'est aussi une façon de rompre cette relation parfois trop intime que nous cultivons avec nos biens matériels et qui, à terme, nous empêche d'aimer Dieu et notre prochain de tout notre cœur, d'un cœur non partagé. C'était un des problèmes des pharisiens, qui à l'intérieur étaient pleins de rapacité. Pour éviter ce terrible verdict de Jésus, faisons confiance à Dieu pour les choses matérielles de la vie. Et faisons-nous un trésor dans les cieux, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Alors, je suis conscient que ce n'est pas forcément une chose facile. Enfin, pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi. Mais si nous avons des investissements à faire, faisons-les dans la bonne devise, celle qui ne se dévalue jamais. Amen.
Quel programme, hein.